Bonjour à toutes et à tous, ici Papa Blaye Baldé, vous êtes sur Sabali, le podcast où je décortique le parcours de vie de mes invités, des hommes et des femmes d'exception et à réussite dans leurs domaines respectifs. Ensemble, on parle de leur parcours, de leur succès, de leurs moments de doute, de leur passion, mais aussi de leurs choix professionnels. À chaque fois, j'essaie de mettre en lumière leur singularité, leur différence qui vous allez l'entendre au fil des numéros et aussi ce qui fait leur force. Bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Madame Tiaba Kamaresi, fondatrice et ancienne directrice associée de Deloitte Sénégal, qu'elle a quittée pour se consacrer aux activités d'investissement. Nous y reviendrons plus tard. Elle est cofondatrice de Women Investment Club Capital. Il s'agit du premier fonds d'investissement dévolu au soutien à l'entrepreneuriat féminin en Afrique de l'Ouest, dont elle préside le conseil d'administration et le comité d'investissement. Tiaba Kamaresi est aussi administratrice de plusieurs entreprises dont la laiterie du berger, Sunu Investment Holding ou encore la ChaiseF Gestion. Ensemble, nous avons évoqué son enfance à Dakar où elle a grandi, de sa scolarité au Père Maris avant de poursuivre ses études supérieures en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand de Paris en France. Tiaba Kamaresi est diplômée en marketing à la prestigieuse école de commerce ECP Europe. Son diplôme obtenu, elle rentre aussitôt au Sénégal. Sa grande et riche carrière débute en 1990 lorsqu'elle a fondé son propre cabinet d'audit et de conseil qui est devenu plus tard Deloitte Sénégal. Fin 2017, elle démissionne du cabinet. Démission qu'elle décrit sur Jeune Afrique comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu et que son entourage a mis du temps pour comprendre. Je me suis attardé sur cette étape de son parcours car les raisons qui l'ont motivé sont aussi louables qu'inspirantes. Habituée à travailler pour des multinationales pour qui tout était facile, dit-elle, Tiaba Kamaresi ne trouvait plus de sens à ses occupations quotidiennes. Pour elle, rester dans son confort lui renvoyait une image qui ne lui correspondait plus. Avec son phrasé posé et calme, elle explique au cours de cet échange, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, son choix de se consacrer au financement des femmes entrepreneurs et au coaching des jeunes dirigeants. Nous sommes revenus sur ses nombreux engagements en tant qu'administratrice et ses missions. Comme à chaque épisode, je l'ai invitée à nous partager ses valeurs, ses missions, ses passions, ses livres qui l'ont marqué, où elle en a profité aussi pour distiller de bons conseils aux jeunes femmes. Lors de notre enregistrement, vous allez entendre des petits bruits parasites. Je les ai laissés tout de même, car c'est aussi cela qui fait l'authenticité de Sabali et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Une dernière chose, j'ai désormais ajouté une petite innovation. Je prends une à deux questions d'auditeurs par épisode, une manière pour moi d'intégrer davantage la communauté de Sabali Podcast qui ne cesse de grandir. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon invité Tiaba Kamaresi. Bonne écoute. Bonjour Madame Si.
Bonjour Monsieur Baldé.
Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un vrai honneur pour moi de vous avoir sur ce podcast Sabali. Vous occupez le poste de présidente de conseil d'administration et administratrice aussi dans plusieurs entreprises, dont 8 Capital, qui m'intéresse à bien des égards. On en reparlera. J'aimerais axer notre interview autour de deux points, sur l'entrepreneuriat des femmes, en particulier les financements, et aussi l'accompagnement des jeunes dirigeants. Comme vous le savez sans doute, il existe des jeunes très brillants au Sénégal et en Afrique, mais qui malheureusement, ils n'ont pas souvent les bonnes informations au moment de s'orienter. Avec Sabali, je veux leur ouvrir la porte de l'immensité du champ des possibles, modestement, et surtout aussi susciter en eux des vocations. Mais avant vraiment de rentrer dans le fond, je vous invite à vous présenter à nos auditrices et auditeurs en revenant sur votre enfance et votre parcours scolaire au Sénégal et en France.
Mm-hmm. Bon, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur ce podcast. C'est vraiment, enfin, tout l'honneur est pour moi. Et oui, donc en termes de présentation, Tiaba Kamaresi, sénégalaise, je suis née au Sénégal, j'y ai vécu toute ma vie, sauf une fenêtre de 5 ans que j'ai passée entre la France et l'Angleterre au moment de mes études supérieures. Donc mon enfance, alors une enfance plutôt heureuse. Hein. Je suis l'aînée de 4 sœurs. Donc une famille très très unie, très fusionnelle, très très ancrée dans le dans la culture, dans les traditions sénégalaises. Mmh. Et j'aime me décrire comme étant une métisse Lebou-Baol-Baol aux origines Peul.
Ok.
Voilà, donc très un bien. Beau un beau mélange qui représente, je pense, ce qu'est le Sénégal.
Mmh. Vraiment, vous avez grandi à Dakar.
Un pays. Alors, je suis née, j'ai grandi à Dakar. Donc, vous voulez, en termes de scolarité, tout mon parcours scolaire dans le privé catholique. J'ai fait tout mon primaire à Jeanne d'Arc. Et donc, je vous ai dit, nous sommes 4 sœurs. Mes parents ont dû penser qu'il serait sain que je puisse grandir avec des garçons. Et donc, j'ai passé mon secondaire chez les pères maristes, qui étaient mixtes. D'accord. Donc voilà, à partir de la sixième à la terminale, j'étais dans un environnement mixte, alors qu'à l'époque, Jeanne d'Arc n'accueillait que des filles. Voilà, donc oui, scolarité sans problème, j'étais plutôt bonne élève. Je me rends compte maintenant avec l'âge, je me rends compte que très tôt, j'ai développé une sorte de pragmatisme. J'étais très concentrée en classe parce que l'objectif, c'était de gérer mon temps au mieux. Enfin, c'est maintenant que je l'analyse comme ça, mais je me rends compte. Je voulais, en sortant de la classe, avoir tout compris, être sûr que voilà, j'avais tout ce qu'il me fallait pour rapidement faire mes devoirs et passer aux choses qui me passionnaient vraiment. donc voilà, ça m'a plutôt bien servi pour ma scolarité.
Okay. Du coup, vous avez fait une spécialité littéraire ou bien scientifique ?
Moi, j'étais une passionnée de maths. D'accord. Donc, j'ai fait une terminale C.
C, on disait, ouais, à l'époque. C'est SO maintenant.
Voilà, c'est ouais. Ça. C'est devenu SA. Donc, c'était vraiment les maths, j'aimais bien les sciences naturelles. J'adorais la philo.
Oui.
Et j'aimais les... En fait, oui, je pense que cette série est celle qui me convenait le mieux, celle où j'étais le plus à l'aise et celle où c'était le plus facile. Je trouve que c'était plus facile de faire une série C qu'une série L, par exemple. Jusqu'à présent, les littéraires, j'ai cette forme d'admiration pour eux. Les maths, c'est carré.
Ouais.
Les maths, c'est la vie. Et puis, ce qu'il y a de confortable, c'est que on peut à tout moment s'évaluer. On peut savoir si on a la bonne réponse ou si on est dans l'erreur.
C'est ça.
Et on peut être sûr d'être dans la vérité. Ou alors avoir conscience qu'on est dans l'erreur.
C'est très objectif, les mathématiques.
Ah, c'est très objectif et je trouve que c'est très rassurant. Et moi, ça me passionne. Enfin, j'aimais cette... ce confort, j'appelle ça un confort. De savoir si j'avais la bonne réponse, si j'étais dans la vérité ou si j'étais dans l'erreur et comment est-ce que je pouvais trouver la solution pour... Alors que dans le monde littéraire, c'est... Oui, on n'a pas ces repères-là. Hein.
C'est ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous parce que moi aussi, j'ai fait des séries scientifiques et j'ai fait des mathématiques aussi. Pour la bonne et simple raison, c'était l'économie d'énergie, en fait. C'est-à-dire que j'avais énormément de mal à mémoriser des choses. J'avais plutôt une mémoire visuelle. Et donc, le fait que les mathématiques, c'était assez objectif, il suffisait de comprendre le cours et vous pouvez faire toutes
Absolument.
Sortes d'exercices. Ouais. Alors que dans d'autres séries, il fallait connaître par cœur les textes et j'avais énormément de mal avec Donc c'est pour
ça. Moi c'est pareil. Ouais. Et puis voilà, puis de trouver les. ma patience était de développer ma culture générale, justement pour arriver à résoudre les problèmes de la manière la plus. Voilà, parce qu'il y avait la manière
et
aussi.
Et puis il y a une beauté aussi. Avec les sciences en général, je trouve.
Oui, oui. Série C que je trouvais plus facile d'ailleurs que série D, parce que série D, il fallait être vraiment. Bon, si en... Alors, j'aimais bien les sciences physiques, je n'aimais pas la chimie.
Ouais.
Voilà. Donc.
Et donc, du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir poursuivre vos études en France ?
Alors, moi, je ne voulais pas aller en France. En fait, quand j'étais... Enfin, je ne voulais pas. quand j'étais gamine, mon rêve était d'être générale dans l'armée du Sénégal. Et ça a commencé très tôt. Mais, en fait, parce que je faisais partie des cadets de l'ASFA à la caserne Saint-Bédier Diallo. L'escadron montait. Donc, j'ai commencé à monter à cheval à 10 ans. Mais j'ai voulu monter à cheval très tôt. Je me souviens, quand j'étais petite, je devais avoir 5-6 ans, j'avais découvert au cinéma le petit José Lito. Alors, le petit José Lito, c'était un Andalou, un petit garçon andalou qui montait à cheval et qui chantait le flamenco. Et jusqu'à présent, j'adore le flamenco. Donc, à la fois les chants et la danse. Et je voulais monter à cheval. Et je me souviens d'avoir vraiment fatigué mes parents. Et voilà, jusqu'au jour où mon père m'a offert une jument. Donc, j'avais 10 ans. Et donc, ma première jument princesse est morte à 32 ans. Donc, voilà, elle nous a vraiment accompagnés. Ça a été un long compagnonnage. Et elle m'a inscrite à la caserne, donc Saint-Bédier Diallo. Et j'ai découvert la vie militaire. Et ce qui me plaisait, c'était à la fois le fait d'appartenir à un système, le fait d'être au service de la nation. Je découvris chez les militaires, il y a cette sorte de, enfin, ils regardent les civils un peu de haut, quoi. Il y a cette fierté d'être militaire, de défendre la nation. Il y a un ciment très fort. Donc cet esprit me plaisait, la discipline, le sport qui était associé, parce que voilà, pour un militaire, c'est quelqu'un d'actif, c'est quelqu'un de sportif, ça s'éduque, ça s'entretient. Et je voulais être général parce que je voyais bien la différence entre la troupe et les officiers. Et tant qu'à faire, voilà, bon, en fait, chacun a son rêve, et ça, c'était le mien. Et donc, pour moi, tout naturellement, j'allais intégrer Polytechnique, et puis être officier dans l'armée, jusqu'au jour où j'ai réalisé que je ne pouvais pas parce que j'étais une fille. Et à l'époque, l'armée sénégalaise n'avait pas d'officier.
D'accord.
Et ça a été vraiment une...
Un choc ?
Oh, ça a été une énorme déception. C'était bon. Il y avait tout ce qui me plaisait. Donc, Polytechnique, je me voyais bien dans une carrière d'ingénieur. Je me voyais avec l'uniforme. Mais bon, donc, j'ai eu ensuite envie plutôt d'être médecin, de faire des études de médecine. Et j'ai surpris une discussion d'amis qui à l'époque étaient étudiants en médecine et qui faisaient des blagues autour de leurs cours d'anatomie où ils disséquaient des cadavres. Et la manière dont ils en parlaient en riant ça m'avait tellement choqué. Bon, pour moi, c'était comme désacraliser quelque chose qui qui m'impressionnait énormément. Qu'on puisse parler comme ça d'un, voilà, de la mort, ça m'avait plutôt choqué. Et je m'étais dit, je ne serais jamais capable de faire ça. Et donc, du coup, c'était mal. Je ne sais pas ce que je vais faire dans la vie. Plus rien n'avait de sens en termes de vocation. Et je suis tombée par hasard sur un numéro de la revue L'Étudiant. Je ne sais pas si cette revue existe encore.
Ça existe encore. Maintenant, c'est plus numérique.
Voilà. Donc, ce que je dis là, j'étais en seconde. En seconde. Et j'ai vu que le programme était très proche de celui de la terminale C, quoi. Mm-hmm. C'était les mêmes matières, sauf qu'il y avait de l'économie en plus. Et puis pas la philo. Peut-être quoi que si. On avait mais en tout cas, voilà, le programme était très proche, c'était familier. Donc je me suis dit, bon, ben, voilà. Parce que mon père m'avait prévenu que je n'avais pas droit à une bourse sénégalaise parce que je ne remplissais pas les critères. Des jeunes beaucoup plus démunis que nous. Quoi. Il m'a dit qu'il n'avait pas les moyens de me payer des études à l'étranger. Et que donc, si je voulais faire le programme de la prépa HEC, il fallait que j'arrive à décrocher une bourse de la coopération française. À l'époque, il y avait un organisme qui s'appelait OCO, je crois, qui donnait des bourses aux élèves. Bon, c'était des bourses d'excellence. Et donc, c'était une sélection sur dossier à partir de la seconde. Et il fallait avoir au minimum une mention bien au bac, ensuite, pour pouvoir y prétendre. Et donc, oui, j'ai passé des années seconde, première, terminale un peu stressée parce que... voilà, j'avais vraiment le sentiment que tout ne dépendait que de moi, que je n'avais pas de filet de sécurité, que si je voulais faire les études, c'était le seul choix qui me restait.
Vous avez senti que le spectre se réduisait en termes de choix.
Voilà. Et donc, donc les choses se sont bien passées. Puis j'ai pu donc aller en France. J'étais au lycée, j'ai fait ma prépa au lycée Louis Legrand.
Ah, Louis Legrand ? Oui. Ah oui, vous avez fait Louis Legrand ?
Était... Alors, à l'époque, en classe de terminale C, au Mariste, nous étions 17.
D'accord.
Et sur les 17 de la même classe, nous étions 5 à nous retrouver ensemble
c'est bien.
Au lycée Louis Legrand. Non, mais vraiment, on a... L'école à l'époque, j'ai été lauréate au concours général en première et en terminale. Alors, en première, ce devait être en langue et en maths. Et en terminale, c'était en philo. Philo et mathématiques aussi, je vois. Et de la même classe, nous étions plusieurs élèves de la même classe de philo à avoir eu des prix au concours général de terminale. Voilà. Mais là, le choc en arrivant, parce que bon, le rêve, oui, voilà,
le quartier latin.
Mais le choc en arrivant en France. Donc j'ai découvert le froid, la grisaille. Louis Legrand, maintenant, ils ont ravalé les façades et tout. Hein. Mais c'était un bâtiment...
Lugubre. austère.
Très austère. Pareil, donc c'était une école de garçons. Donc ils avaient... Je ne sais pas si ça a changé, mais c'était un internat pour les garçons. Et les filles...
Maintenant, c'est mixte.
Ah, c'est mixte maintenant. Ouais. Parce que donc, les filles... Donc moi, j'ai eu mon bac à 17 ans, donc... En plus, comme j'étais mineure, pas de possibilité d'ouvrir un compte en banque. Je suis allée habiter dans un foyer tenu par des... un foyer de jeunes filles tenu par des religieuses. Oui, mais vraiment, au bout d'une semaine, j'avais envie de rentrer à la maison. Quoi. C'était j'ai pas signé pour ça. C'était vraiment pas le... Il y avait le rêve et puis cette réalité avec compétition féroce entre... Et ça aussi, ça a été un choc énorme parce que en classe de terminale, donc 17, on était 17 copains, quoi. Nous travaillions ensemble, les révisions, on les faisait ensemble, on passait beaucoup de temps. Alors que là, en prépa, donc je passe d'une classe de 17 à une classe de 55. C'était... Et puis la compétition, chacun ne voyait son camarade qu'un futur compétiteur, quoi, pour le concours. Et au lycée Louis Le Grand, la tradition n'était pas le bizutage classique, là où on vous jette des sacs de farine ou des œufs ou quoi. C'était d'abord les bizus, donc les premières années, on les appelait bizus, on était un peu les citoyens de seconde zone. Les carrés, donc ceux qui avaient redoublé leur année de prépa, étaient les patrons. Et c'était un bizutage très insidieux, où c'était... on sapait votre morale. C'est très dur. Donc voilà, tout ça pour dire, pour ma petite Sénégalaise, là, qui ne connaissait pas... ni le froid, et le froid à la fois en termes climatiques et en termes de relations humaines. J'ai vraiment connu la détresse humaine dans le sens des relations. Et c'est là que je réalise à quel point au Sénégal, les relations sont chaleureuses.
C'est très chaleureux.
Moi, passer devant un voisin et ne pas lui dire bonjour, ça je ne comprenais pas. Voilà, c'était... Donc voilà, et pour clore ce chapitre, donc voilà, j'ai intégré l'école supérieure de commerce de Paris. J'ai eu mon...
L'ESCP ?
L'ESCP. Voilà, oui, qui est devenu maintenant ESCP, EAP, Europe. Donc j'ai eu mon diplôme un 30 juin, le 10 juillet suivant, j'étais à Dakar. Avec armes et bagages pour commencer à travailler. J'avais trois offres d'emploi parce que c'est vrai que bon, je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais les diplômés de grandes écoles étaient très très courtisés.
C'est toujours le cas.
Mais pour moi, il était évident que je devais rentrer. Et je me souviens du commentaire d'une amie qui me disait « Mais tu es complètement folle. Qu'est-ce que tu vas aller faire dans un pays sous-développé alors que tu as des perspectives d'emploi ?» Et c'est vrai, c'était de belles offres. Hein. Il y avait Nestlé, il y avait un cabinet de marketing. Et puis, j'oublie le nom, société qui était propriétaire de la marque Ariel à l'époque. Bon, ça va me... C'était Procter & Gamble. Mais voilà, j'ai choisi de rentrer au Sénégal et je suis heureuse de l'avoir fait.
Madame Si, quand on regarde votre parcours, vous venez d'en parler, donc à la fois académique et professionnel aussi, on est à la fois admiratif et aussi un peu impressionné, je l'avoue. Quelle a été votre source de motivation qui vous a permis d'en arriver là aujourd'hui?
Alors déjà, en termes de motivation, je vais être très honnête. Hein. Au début, je n'en avais pas vraiment. C'est-à-dire, parmi les valeurs familiales, il y avait celle du Diom. Alors, je ne sais pas comment traduire. Non, le Diom, c'est le sens de la dignité, du respect de soi, et puis également de la persévérance, quoi. Et c'est de se dire, quand on fait quelque chose, on le fait bien. Donc, je n'avais pas vraiment... Je vous ai dit, j'ai fait une prépa HEC parce que j'avais rien d'autre à faire. Enfin, je ne trouvais rien d'autre à mon goût. Bon, j'ai eu la chance d'intégrer l'ESCP. J'ai fait une spécialisation en marketing et très rapidement, en rentrant au Sénégal, j'ai réalisé que ce que j'avais appris, qui était valable pour des marchés occidentaux, ne fonctionnait absolument pas localement. Et je suis tombée par hasard dans l'audit, mais alors complètement par hasard. Je ne voulais plus continuer dans... Bon, j'avais eu un emploi en or en rentrant, donc déjà au mois de décembre, avant que je sois diplômée, mon futur employeur m'avait déjà embauchée. Je savais que je rentrais avec un emploi, et mon futur employeur était le copain d'enfance de mon père, qui dirigeait la SIPL, qui était à l'époque une société qui produisait du lait condensé, là, des concurrents de Nestlé, et puis le yaourt Yoplait au Sénégal. Oui. Mais ça, au bout de 3 mois, j'ai compris que c'était beaucoup trop facile. J'étais très bien payée. Je reportais directement à mon tonton, qui était le PDG. Ah. Parce que ça avait été une de mes conditions. Je ne voulais pas dépendre de quelqu'un. Je ne voulais pas dépendre d'une direction commerciale ou autre. J'avais vraiment mes idées bien arrêtées sur la stratégie marketing que je voulais proposer. Mais donc très vite, j'ai réalisé que ça ne fonctionnerait pas. Tous les matins, donc, ma passion, c'était, je vous ai dit, l'équitation. J'ai continué à monter à cheval quand j'étais en prépa. Et c'est ce qui m'a aidé d'ailleurs à supporter la pression. Mmh. Et quand je suis rentrée à Dakar, donc, tous les matins, j'allais monter à cheval. Avant d'arriver au bureau, personne n'osait rien me dire. Et là aussi, je me rendais bien compte que... Voilà, c'était pas idéal. Et donc, je suis tombée sur une annonce de recrutement d'un cabinet d'audit, qui est l'actuel Ernst & Young. Et j'ai répondu parce que je ne savais pas ce qu'était l'audit, offre d'emploi. Et parmi les critères, il y avait diplôme de grandes écoles. Donc j'y suis allée. Et lors de l'entretien, j'ai réalisé que, quand on parlait d'état financier, de contrôle de compte, j'aurais dit, écoutez, je me suis trompée, je suis nulle en comptage, j'ai horreur de ça, donc excusez-moi de vous avoir fait perdre votre temps. Donc, ils ont été très surpris, et puis le reste de l'entretien, ça a été justement de me démontrer que non, l'audit, ce n'était pas la comptabilité, que j'allais également aider les entreprises à s'organiser, à gérer leurs procédures, à créer de la performance. Enfin, j'aurais dit, si moi j'ai été honnête, je vous ai expliquer mes limitations, si vous voulez quand même, tant mieux. De toute façon, je voulais changer de travail, donc voilà comment je suis tombée dans l'audit. Donc ça n'est vraiment pas par vocation, c'est pas quelque chose que j'ai cherché, mais une fois que j'étais là, en revanche, et parce que j'ai été un peu piquée, j'ai eu un patron qui ne croyait pas aux femmes et à l'efficacité des femmes au travail, donc je me suis dit, là, il y a une image à remettre à l'endroit. Et je me suis prise au jeu. Et voilà comment j'ai fini. Donc j'ai commencé chez EY. Ensuite, j'ai ouvert mon propre cabinet qui est devenu l'actuel Deloitte Sénégal. Voilà.
On va en parler, justement. En revenant un peu en arrière, vous en avez parlé très rapidement, mais moi, je suis très attaché à ça. Avez-vous comme ça en tête des valeurs que vos parents vous ont transmises et qui vous définissent aujourd'hui en tant que femme? Vous avez parlé du diplôme tout à l'heure.
Oui. Je pense que la valeur la plus importante, et à la fois du côté de mon père comme du côté de ma mère, c'est l'indépendance. Et j'irais même la liberté. C'est-à-dire la possibilité d'avoir, de choisir ses propres options. Et donc, tout le corollaire qui va avec. Hein. Donc, on dit en Wolof, la personne qui contrôle ta nourriture, contrôle également ta dignité. Et donc, je vous ai dit, hein, nous sommes quatre sœurs et nous avons grandi avec le message que notre premier mari devait être notre métier. Wow. Et que il était important, il est important pour tout être humain, hein, d'assurer les conditions de sa propre indépendance, de sa propre dignité, mais encore plus quand il s'agit d'une femme. Et très tôt,
c'est fort,
donc j'ai grandi avec cette
idée.
Oui, c'était d'abord tu comptes sur toi, sur toi-même. Et quand j'étais enfant, je me disais, quel que soit le métier que j'exercerai plus tard, même si c'est de vendre des cacahuètes, eh ben je vendrai bien mes cacahuètes et je serai respectée comme vendeuse de cacahuètes. Et je n'aurai rien à demander à personne. Et ça, cette idée-là, je devais avoir 6 ou 7 ans. Mais c'est vrai que ça vous formate. Et je vous ai dit, je viens d'une famille très, très traditionnelle. Donc, je suis de culture Lébou. Et autour de moi, je ne voyais que des femmes très, très fortes, très, très indépendantes, très solidaires. Mais l'image de la femme soumise qui attend qu'on lui dicte un comportement... non, alors... En revanche, ce qui allait aussi en corollaire avec cette farouche indépendance, c'était également le respect et l'amour de soi et d'autrui. Et ça aussi, pour moi, ça m'a vraiment porté dans la mesure où mon père me disait, si tu ne peux pas vraiment être sincère dans ton respect d'autrui si tu ne te respectes pas toi-même. Ça portera un autre nom, c'est peut-être de la crainte, c'est peut-être de l'intérêt, mais ça n'est pas vraiment du respect. Tu ne peux pas authentiquement exprimer pour quelqu'un d'autre quelque chose que tu n'es pas capable d'exprimer pour toi. Si tu veux que les gens t'aiment, commence déjà par être aimable et par cultiver ce qu'il faut pour t'apprécier toi-même. Donc ça, je dirais, c'est les deux éléments. Le troisième, c'est le service et la contribution. Voilà, c'est quand on est... Et ça, je dirais, c'est aussi un élément de la... culture traditionnelle, et c'est très féminin. Quand une femme va, en tout cas, bon, c'est comme ça que j'ai grandi, que c'est resté, et c'est également ce que je vois jusqu'à présent. Une femme, quand elle est invitée à passer la journée quelque part, elle a les habits avec lesquels elle arrive chez ses hôtes, et puis elle a ses habits d'intérieur. Et dès qu'on arrive, on va se changer et on va s'enquérir des tâches à accomplir. Comment est-ce qu'on peut aider ? Et on aide à la cuisine, on aide à ranger, à faire le service. Et quand on est dans une communauté, le diom, justement, veut que on soit un élément contributif, un élément positif. Donc voilà, ce sont liberté, indépendance, respect, amour d'autrui, de soi, et puis le sens du service.
Et puis ça fait un peu écho aussi par rapport à votre vocation d'antan, qui était d'être général.
Oui.
Quand vous parlez de service et
pour
de
moi,
la
le service.
Contribution.
Ah, oui.
Ça fait écho. Alors, on va arriver à la partie du podcast où on évoque vos expériences professionnelles. J'aimerais aborder avec vous les expériences les plus significatives. À chaque fois, en filigrane, ce qui a motivé vos choix. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur votre parcours au sein de Deloitte Sénégal. Donc, vous en avez parlé tout à l'heure. J'ai lu sur un papier très intéressant sur Jeune Afrique en mars 2023, c'est correct? Où vous avez décrit votre démission au sein de ce prestigieux cabinet d'audit, je vous cite, comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. C'est très poétique. Plus loin, vous dites, c'est ma midlife crisis. Je ne me retrouvais plus. Cela a été compliqué à expliquer à mes collègues. Pourquoi un tel choix et quelles ont été les principales motivations?
Alors, ce cabinet, effectivement, je l'ai créé. Hein, je l'ai créé de zéro.
Quelle année?
Je l'ai créé en 90.
D'accord, ok.
Mon fils est né en janvier 90 et j'ai créé le cabinet en mai.
Ah oui.
Donc j'ai démissionné du cabinet EY qui s'appelait à l'époque Helios. Ernst & Young. Donc j'ai démissionné début 90 et puis sur le moment, parce que voilà, quand j'ai accouché, tout mon univers tournait autour de mon bébé. J'ai quitté le cabinet encore une fois parce que voilà, j'estimais que en tant que femme, je n'étais pas, voilà, c'était un problème. Je trouver mon patron misogyne. Donc j'ai jeté l'éponge. Au début, je m'étais dit, je vais faire femme au foyer. Hein. Mon mari n'a qu'à s'occuper de moi et de notre bébé. Donc ça a duré 3 mois. Et je me suis remis au travail. J'ai gagné une mission. Pour laquelle j'ai rédigé mon rapport sur la table de ma cuisine, donc au bic, ouais. Et sur un bloc de papier, et la secrétaire de mon père l'a tapé pour moi, pour que je puisse le déposer. Donc puis j'étais bien payée, et je me suis dit, mais c'est voilà, ça c'est magnifique quoi, je vais faire freelance. Ouais. Et donc mon père me pose la question, quels sont tes projets professionnels? Je dis, ah non, mais ce que j'ai fait là, ça me va très bien. De temps en temps, j'irai chercher des missions et puis on verra comment. Et sa réponse a été, il n'en est pas question. Fais les choses sérieusement. Si tu veux exercer ce métier, va chercher un local, installe-toi avec pignon sur rue et puis travaille correctement, quoi. Ne va pas faire la banane. Je n'ai pas osé lui répondre. Enfin, j'ai essayé d'argumenter, mais parce que j'avais envie de dire, mais qu'est-ce qu'un fonctionnaire connaît de l'entrepreneuriat, quoi. Je n'ai rien, j'ai pas de capital, je n'ai pas les moyens de payer un loyer, de m'installer, donc avec quoi est-ce que je vais le faire? Et il m'avait répondu, ta seule obligation, c'est de commencer, et le reste, c'est l'affaire de Dieu. Mais toi, fais d'abord, fais ta part, et Dieu fera le reste. Bon, je n'ai pas osé désobéir, il n'y connaît rien, il n'y comprend rien. Quand j'aurai accumulé 3 mois de loyer en retard, il verra. Donc voilà comment le cabinet a commencé. Donc oui, les premières années de galère. Ah. Voilà. Puis j'ai au bout de la 6e année, j'ai rejoint un réseau français, le groupe Constantin. Constantin s'est rapproché de Deloitte fin 2007. Et donc, mon cabinet Camarasi, est devenu Deloitte Sénégal en 2008.
En 2008, ok. Voilà. D'accord.
Et donc, j'ai rapidement rejoint le... Donc, on a constitué une holding, des cabinets membres du réseau Deloitte en Afrique francophone, donc qui s'appelait Deloitte Afrique. Et j'ai rapidement rejoint le conseil d'administration de Deloitte Afrique. Et ensemble, nous avons vraiment construit le réseau dans sa structure actuelle. Et ça a été magnifique. Vraiment, j'ai Deloitte m'a vraiment, vraiment permis de m'épanouir professionnellement et a vraiment beaucoup élargi mon horizon. J'ai fait des rencontres magnifiques. J'ai beaucoup grandi professionnellement. Je me suis bien construite. Et puis, au bout d'un moment, bon, je sais pas. au bout d'un moment, j'ai arrêté de. C'est-à-dire, il y a eu une déconnexion entre. Et ça s'est passé. Le déclic. J'en ai vraiment pris conscience en novembre 2016. J'étais en mission en Tunisie et j'étais assise en face du ministre du commerce tunisien qui nous commentait la stratégie du gouvernement. On discutait de stratégie économique et toutes les trois phrases, l'Afrique subsaharienne revenait. Et je me suis dit, mais en fait, quand des investisseurs étrangers viennent chez nous, on leur déroule le tapis rouge. Ils ont l'accompagnement de leur gouvernement. Ils ont toute la force de frappe de leur fonds d'investissement. Mais nous, nos gars, là, à la maison, qui s'occupe d'eux? Les entrepreneurs. Les entrepreneurs sénégalais, je les connais, oui. Je me disais, mais ils ne bénéficient pas de tout ça. 90% du tissu économique local est constitué de PME. Et beaucoup d'entre elles galèrent. Cette complicité, cette proximité entre le gouvernement... qui cherchent à les soutenir, qui les accompagne. Donc, ce dont parlent les Tunisiens, ce que le roi du Maroc a très bien su faire pour son pays. Moi, je ne voyais personne ici à l'écoute des chefs d'entreprise pour aller à la conquête de marchés extérieurs. Et à un moment, ça a commencé à créer un véritable malaise chez moi. Je me disais, mais... je sers à quoi? Je suis dans ma cage dorée, là, dans un océan de misère. Je me sentais vraiment... j'avais l'impression que je ne servais à rien, je côtoyais au quotidien des personnes qui avaient besoin, enfin, en tout cas, à qui j'aurais pu être utile, que j'aurais pu aider gérer leurs entreprises, à atteindre la croissance. Mais au quotidien, je m'occupais de multinationales étrangères et voilà, avec des normes internationales qui étaient en décalage total avec la réalité dans laquelle je vivais. Et ça, à un moment, c'est devenu juste insupportable. Je ne pouvais plus, mon occupation quotidienne ne faisait plus de sens pour moi. Et donc d'y rester juste par confort et pour l'argent me renvoyait une image de moi que je ne supportais pas. Et ça aussi, c'était bon. Là maintenant, les choses se sont tassées, donc elles sont beaucoup plus claires. Mais tout ce que je ressentais à l'époque, c'était mes tripes et mon cœur qui me disaient c'est pas là, quoi. Ça n'a pas de sens. Il y a énormément de boulot à faire. il faut se retrousser les manches et puis
y aller.
Y aller. Et c'était la même logique qui m'avait amenée à rentrer au Sénégal tout de suite après. Le Sénégal, soit les Sénégalais le développeront pour eux, ou alors il sera développé par d'autres, mais contre les oui, on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux et sans eux. Hein. C'est soit nous voulons être indépendants, et nous allons chercher cette indépendance-là, parce qu'en plus, c'est un sujet qui est toujours d'actualité.
Bien
Je pense qu'on est... il faut que ce soit nous qui le fassions pour nous. Et je parle du Sénégal, mais pour moi, c'est valable pour l'ensemble de l'Afrique. Soit on continue le statu quo actuel, où nous sommes spectateurs de l'exploitation de nos richesses par d'autres, pour d'autres. Voilà. Donc voilà, ce qui m'a amené. Et à l'époque, il était difficile à chaud comme ça de bien articuler tout ça, de bien l'expliquer pour tout le monde. C'était pas, c'est comme la copine, la camarade de promotion qui m'avait dit « Mais tu es complètement folle d'aller à l'aventure dans un pays sous-développé. » Oui, et quand elle disait ça, elle ne se rendait pas compte que le pays sous-développé en question, c'était mon pays, quoi. Et que, voilà, je pouvais avoir au moins des raisons affectives et sentimentales d'avoir envie d'y rentrer. Donc là, oui, c'était la...
C'était quand ?
J'ai quitté, j'ai quitté Deloitte en fin 2017. J'ai prévenu mes associés en début d'année que je partirais. Quoi. Et voilà. Donc, mon nouveau centre d'intérêt était le capital, l'investissement en capital.
On y reviendra. Je vous propose qu'on reste un peu dans le monde de l'audit. Avec Sabali Podcast, je profite de l'occasion pour faire beaucoup de vulgarisation, pour susciter des vocations, comme dit tantôt au début de l'interview. À ce propos, j'ai une question d'un auditeur qui vous connaît très bien. Je vous fais écouter.
Bonjour Thiaba. Tout d'abord, je tiens à te féliciter pour l'énorme travail accompli au niveau du cabinet de loi de Sénégal. Je suis de ceux qui sont très heureux de pouvoir prendre le flambeau à partir justement des soubassements qui ont été établis par toi et par les associés qui nous ont précédés. Moi, j'ai une question pour toi. C'est surtout de savoir comment aujourd'hui tu estimes avoir pu tenir pendant toutes ces années en tant qu'associé, mais aussi dans le métier de l'audit du conseil, qui, nous le savons tous, est extrêmement prenant, autant sur le plan moral, mental que physique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a permis de pouvoir tenir à faire ce job, mais aussi de pouvoir servir chacun de tes clients comme s'ils étaient les seuls clients que tu avais dans ton portefeuille. Merci et félicitations encore une fois.
Alors, donc une question de Elhaj Malik Gueye, directeur associé de la branche Risk Advisory de Deloitte Afrique francophone.
Non, d'abord, c'est vraiment très gentil. Merci beaucoup, Elhaj Malik, pour ce témoignage. Alors, qu'est-ce qui m'a fait tenir ? Bonne question. Ma mère m'a toujours dit, ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Tant qu'à faire quelque chose, autant le faire du mieux qu'on peut. Et quelle que soit la chose qu'on est en train de faire. Et c'est vrai que chaque fois que je fais quelque chose, j'y mets tout mon cœur. Ça, c'est dingue. Donc, pour répondre à la dernière question, comment j'arrive à servir chaque... c'est ça. C'est que je sers mon client. Et je me souviens que je disais à mes collaborateurs, beaucoup de mes clients étaient devenus des amis. Et je leur disais, je tiens à l'excellence du service à tout moment. Il faut servir avec générosité. Parce que perdre un client, c'est dévastateur, quoi. Mais perdre un ami,
c'est encore
pire. Et donc ne jamais, il ne faut pas décevoir. Et je pense que, bon, enfin, je pense, c'est juste une question de celle, on récolte ce qu'on sème. Donc, oui, quel que soit le... Il n'y avait pas de petits clients hein, chez nous. J'imagine que cette culture est restée. Un client, on le sert. Et on le sert avec la manière. Voilà, avec générosité. Et puis bon, ça crée un cercle vertueux. Et comment faire pour tenir il faut... on parlait tout à l'heure de passion. Il faut savoir gérer sa vie comme un athlète gère son entraînement. Il faut arriver à délivrer au niveau optimal, mais sans jamais tomber dans l'épuisement. Et pour ça, c'est qu'il faut savoir recharger ses batteries. Et moi, mes batteries, je recharge jusqu'à présent en alliant le travail avec les moments de détente et les moments où je m'investis dans ce qui me passionne. Et j'ai les mêmes passions aujourd'hui que quand j'avais 10 ans, donc c'est toujours voilà, c'est l'équitation, la danse, le sport. Le fait de se dépenser physiquement permet à votre organisme de sécréter des hormones de plaisir, d'apaisement. Pour moi, je préfère aller passer une heure de danse plutôt que de prendre un anxiolytique, quoi. Tant qu'à faire, autant Merci. Arriver au même résultat et de manière plus durable en se faisant plaisir, mais vraiment, vraiment plaisir. Donc, oui, je pense que il faut savoir varier, varier ses activités au cours d'une... j'adore la lecture, donc de temps en temps, la petite pause là où je m'accorde en me disant, voilà, j'ai une heure, elle est pour moi, et je m'investis dans un bouquin qui me passionne, ou je vais aller faire une balade. C'est des choses qui m'ont vraiment permis de tenir le coup. Et quand j'étais au cabinet, je vous ai dit, ma passion pour la danse, et notamment... Donc, j'ai beaucoup expérimenté sur des styles différents. Et à un moment, à Dakar, il y avait une danseuse de flamenco, une excellente danseuse de flamenco qui donnait des cours. Et je me suis dit, je ne peux pas rater ça. Donc, c'était 2 fois par semaine. Donc samedi et le mercredi, et le mercredi c'était à 10h, et ben j'avais mis dans mon calendrier, ce créneau était bloqué, et c'était géré comme une obligation professionnelle. Voilà, à ce moment-là, je n'y étais pas, j'étais au flamme. Personne ne s'en doutait dans mon entourage, mais c'était aussi important pour moi que le rendez-vous que j'allais prendre avec un client pour... oui, parce qu'il faut savoir, il faut savoir recharger ses batteries. Voilà, quand il vous reste 1 litre d'essence dans le réservoir et que vous êtes à Dakar, ce n'est pas la peine d'avoir des plans pour aller à Saint-Louis. Vous n'y arriverez pas.
En effet. Aujourd'hui, Madame Si, vous siégez au conseil d'administration de plusieurs organisations, j'ai vu. Dans certains où certaines pardon où vous en êtes la présidente, sans faire offense aux autres organisations, j'aimerais m'arrêter sur 2 quand même. WIC Capital et la laiterie du berger, non pas parce que je suis peu là. Alors, en tant que PCA, quel est votre rôle dans ces organisations, et pourriez-vous nous rappeler les missions de WIC Capital et de la laiterie du berger?
Oui, alors à la laiterie du berger, je ne suis pas PCA. Ah. Je suis présidente du comité d'audit. Mais le PCA, c'est le PDG d'ailleurs, le fondateur de la société Bagoré Batili, oui. Quelqu'un de vraiment d'extrêmement charismatique.
Oui.
Et Bagoré, oui, donc mon histoire avec la laiterie a commencé très tôt parce que j'ai aidé Bagoré à constituer sa société. Mm-hmm. Je vois encore le jeune homme qui entre dans mon bureau voilà, avec son idée de monter une industrie du lait au Sénégal. Donc il est vétérinaire. Et c'est vraiment un parcours entrepreneurial magnifique. Et très inspirant. Donc, la mission de la laiterie est de développer la collecte de lait local pour la transformer et puis la mettre à disposition des consommateurs sénégalais, mais avec une mission qui est d'avoir de l'impact.
J'adore.
Et la laiterie du berger est la première société au Sénégal à obtenir la certification B Corp. Et la certification B Corp, c'est celle qu'on donne aux sociétés, donc c'est une certification internationale pour les sociétés qui répondent aux normes les plus élevées en matière de développement durable. Okay. Donc c'est vraiment dans son ADN. Mm-hmm. C'est à la fois donc, le développement industriel, évidemment, la croissance, la prospérité, mais là aussi le service mm-hmm. et la contribution à la communauté, à la société dans laquelle on vit. Et puis le WIC. Le WIC, c'est aussi un de mes bébés. Alors nous sommes plusieurs mamans hein, du WIC. Donc WIC, c'est Women's Investment Club, qui a commencé comme une association à but non lucratif, mais dans l'esprit d'aider au développement de l'entrepreneuriat féminin. Oui. Et l'idée est partie d'une célébration du 8 mars. C'était 8 mars 2015, où nous nous demandions à quoi servait la Journée internationale des droits de la femme, en se disant, voilà, on nous a offert des chocolats et des fleurs, mais dès le 9 mars, c'est business as usual, quoi. on voyait pas l'impact de... Oui. Puis, bon, on s'est dit, plutôt que de se moquer, qu'est-ce que nous pourrions faire pour donner du sens à cette journée. Et nous nous sommes promis de nous retrouver un an plus tard pour inaugurer un projet qui aurait de l'impact pour les femmes au Sénégal. En se disant, nous allons vraiment... Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et donc, parmi les mamans du WIC, il y avait Madji Sok, qui à l'époque était la patronne d'Alberg... Sénégal, d'Albert est un cabinet international de conseil. Voilà. Et donc, Madji et son équipe ont fait des études. Et la conclusion a été que là où on pouvait vraiment avoir de l'impact et avoir un effet de levier, c'était en aidant les femmes à acquérir ou renforcer leur indépendance économique. Mmh. Et on s'est dit, aucune de nous n'était dans la finance, hein, nous étions quatre. Nous avons décidé de lancer un club. L'idée étant de collecter des fonds et puis de s'en servir pour enlever d'autres et offrir des mécanismes de financement innovants à des femmes entrepreneurs. Donc c'est parti comme ça. Nous ne savions pas vraiment comment le faire, mais nous avons été beaucoup... aider, conseiller. À l'époque, j'avais rejoint une société de private equity qui s'appelle Afig Funds et dont le fondateur, Pap Niaï, nous a beaucoup conseillé. Feu Gabi Fall, pardon, le patron du groupe CGF. Nous a également beaucoup encadré et CGF a une équipe de direction qui est pratiquement presque exclusivement féminine donc nous nous sentions vraiment en sécurité et confortable pour pour lancer le WIC. Et donc aujourd'hui, c'est un réseau. Oui. On a commencé à 4, nous sommes 99 maintenant. Nous voulons rester sous la barre des 100 membres parce que au-delà, nous sommes réputés faire appel public à l'épargne.
D'accord.
Alors, nous tenons à garder un caractère privé. Donc c'est un réseau qui a monté un fonds d'investissement qui s'appelle WIC Capital, donc qui est une société par action simplifiée à capital variable et qui a également qui s'est également doté d'un bras d'assistance sociale, d'assistance technique qui s'appelle WIC Academy.
Ok.
Donc voilà, pour soutenir les femmes entrepreneurs en termes de mentorat, d'assistance par rapport à des gaps identifiés dans leur structure de gestion.
D'accord, c'est magnifique. Bah justement, pour rester toujours sur WIC, avez-vous un exemple d'un investissement qui vous a vraiment marqué?
Ils sont tous très marquants, mais je dirais peut-être le
premier. Moi, j'aime beaucoup Mourou.
Oui, Mourou. Donc je vais vous parler de Mourou et de Ecover. Ils sont tous très marquants et c'est pour ça qu'on les a. Mourou, alors Mourou en Wolof, c'est le pain.
Le pain.
Et Mourou, c'est une donc sénégalaise qui est dans la finance au départ hein, et qui a décidé qui était à l'étranger, qui a décidé de rentrer au Sénégal. Donc elle s'est formée dans les métiers de la pâtisserie et du pain pour venir ici monter son projet. Et donc elle s'approvisionne auprès de groupements féminins en farine locale. Okay. Voilà, farine et plantes. Donc c'est Némédaï, le Moringa, Bissap, Fonio, farine de mil, etc. Et à partir de ça, donc elle prépare des spécialités, boulangères et pâtissières, qui sont ensuite distribuées dans un réseau qui s'appelle les Linger, et qui sont des femmes. Et parmi ces femmes, certaines étaient, vous savez, les petites tables là sur les trottoirs, des cacahuètes ou des. Elles leur offrent une formation sanitaire, elles leur installent un kiosque où elles peuvent continuer à vendre les produits qu'elles avaient, mais où elles vendent également des produits de Mourou, donc dans des conditions sanitaires aux normes. Okay. Voilà. Et comme ça, vraiment, ça boucle la boucle de la solidarité féminine avec un impact significatif. Et je voulais vous parler également de Decover, qui est notre premier investissement. Nous l'avons lancé, pareil, le 8 mars, nous l'avons annoncé le 8 mars 2020, je crois juste deux semaines avant le Covid. Et là, c'est une entreprise donc, qui est montée par deux jeunes femmes qui ont eu pour idée de recycler des pneus pour en faire des terrains de sport. Donc toutes les pelouses synthétiques là,
il y en a beaucoup à Dakar.
Voilà, ont besoin de granulats.
Ouais.
Et elles ont démarré à la maison avec des hachoirs à viande. Elles faisaient ça à la main et nous les avons aidées à monter une unité semi-industrielle pour recycler les pneus. Et cet aspect d'économie circulaire nous tient beaucoup à cœur parce que c'est tellement vertueux. Évidemment, toutes ces activités-là présentent leur... on est toujours dans les challenges de la PME, mais ce sont des activités emblématiques. Donc, nous investissons dans des... projets de femmes, il faut que ce soit des projets rentables et puis des projets qui ont un impact positif sur des chaînes de valeur locales. Ce que nous voulons, c'est vraiment développer des chaînes de valeur locales et puis créer de futures championnes capables d'exporter dans la sous-région et à l'international.
Et du coup, un chiffre, ça donne quoi aujourd'hui, Luc?
Alors, c'est...
En
quelques chiffres, c'est un premier fonds de 5 millions de dollars qui nous a permis d'investir dans 7 entreprises pour le moment. À hauteur de 3 millions, nous pensons pouvoir finir de déployer les deux restants d'ici la fin de l'année 2024. C'est le plan. Et nous sommes actuellement en levée de fonds pour le deuxième fonds du WIC pour une vingtaine de millions d'euros. L'ambition, encore une fois, étant vraiment de servir ce qu'on appelle le missing middle. Les entreprises qui sont trop grandes pour que leurs besoins puissent être couverts par la microfinance. Mais pas assez pour être totalement autonome et attirer des financements importants de bailleurs plus traditionnels comme les banques.
Ok. Alors, si on revient sur les conseils d'administration, comment parvenez-vous à piloter vos différentes missions qui vous ont été confiées?
Alors, c'est... quand on est membre d'un conseil d'administration, on n'est pas dans le pilotage opérationnel. Donc, on est plutôt dans la gouvernance, dans la stratégie, dans la supervision. Donc, c'est des... Alors, en fonction des sociétés, justement, et de leur culture... Le mode de fonctionnement peut être différent, mais les règles de gouvernance de base sont universelles. Hein, je les retrouve dans l'ensemble des conseils où j'interviens. Venant de l'audit, j'ai cette habitude d'intervenir dans des secteurs et des entreprises très, très, très... différent à la fois en termes d'activité, de taille, de culture, donc c'est à la fois passionnant quelque part de formater, choisir, décider le futur d'une le quotidien et le futur d'une entreprise, hein, puisqu'on travaille au niveau stratégique, sans avoir à être derrière le volant, parce que ça, c'est plutôt le rôle de l'exécutif.
D'accord, très bien, très bien. Qu'est-ce que cela requiert vraiment comme compétences personnelles et professionnelles?
Alors, quand on est dans un... conseil d'administration, bon, pour moi, un conseil d'administration, c'est d'abord un groupe avec, avec sa dynamique de groupe. Donc, il faut savoir travailler en équipe. Déjà, il faut savoir collaborer avec des gens différents de vous. Et pour moi, la richesse d'un conseil d'administration vient aussi de sa diversité. Parce que plus on a des points de vue différents, des métiers différents, plus on apporte des manières de voir et des choix et des considérations au moment des prises de décision. Donc, il faut arriver à collaborer dans ces conditions-là sans se sentir chaque fois remis en question et accepter le fait que l'idée qu'on a aujourd'hui ne soit pas forcément celle qui va être retenue par le groupe, sans que ce soit un frein à l'expression de cette idée-là. Je pense qu'il faut également avoir un minimum de connaissance, de compréhension des enjeux de l'entreprise que l'on sert pour pouvoir être pertinent dans ses contributions. Et puis, il faut savoir prendre des décisions. Un conseil d'administration qui fonctionne bien est un conseil où la prise de décision est efficace, bien préparée et selon des... Voilà, pour moi, enfin, ça fait partie de la bonne gouvernance, quoi. Et puis, bon, être intègre, ça commence là. parce qu'on est quand même les garants de la culture, de bonne gouvernance de toute l'entreprise. Et puis savoir communiquer. Pour moi, savoir résoudre des problèmes.
Oui.
Voilà. Et puis avoir de bonnes capacités de leadership.
Alors, j'ai vu aussi que vous faites du coaching pour jeunes dirigeants. En quoi c'est important pour vous de partager, de former de futurs leaders?
En fait, je suis allée j'ai fait une certification en coaching en 2016 parce que justement, plusieurs personnes m'avaient approchée en me demandant de les coacher et chaque fois j'avais décliné en disant mais je ne suis pas coach, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas la compétence. Et au bout d'un moment, je me suis dit mais ça n'est pas la bonne attitude. Si je veux servir ces personnes-là et que j'estime que je n'ai pas la compétence, il faut que j'aille la chercher. Et donc, j'ai fait une formation, c'était en France, et ça m'a permis, je pense que j'ai été la première à en bénéficier de cette... parce que j'ai été certifiée en 2016, ça a été une année de... c'était un an ou 18 mois, mais en tout cas, ça a été une année de profonde remise en question, parce que toutes les techniques du coaching, je me les suis appliquées. Je pense que si je n'avais pas fait cette formation, jamais je n'aurais osé démissionner, vendre mon cabinet, et puis jamais. Ça m'a permis de voir de manière très lucide ce que je voulais et d'avoir le courage d'aller vers ce que je voulais. Voilà, c'est quelque chose que je mets effectivement à la disposition des personnes que je coach, et c'est juste un accompagnement, c'est vraiment de permettre aux gens d'identifier leurs propres ressources et de faire leurs propres choix et d'avoir cette visibilité par rapport à leurs objectifs pouvoir étendre le champ de leurs options, mais de manière consciente. Voilà. Il ne s'agit pas donner des conseils ni de leur montrer la voie, mais pour utiliser une métaphore, c'est un peu le rôle d'une lampe torche dans le noir.
Dans le noir.
Permet à la personne de voir par elle-même son propre chemin.
C'est très louable. Alors, on arrive à la dernière partie du podcast où je pose parfois des questions plutôt personnelles. Moi, je trouve que c'est la partie la plus fun du podcast. Qu'est-ce qui vous passionne et quelles en sont les difficultés au quotidien?
Ah, j'ai plein de passions et sans difficultés au quotidien. Ouais. oui, je vous ai dit tout à l'heure. C'est vraiment... Oui, c'est des passions toutes simples. Hein. Ouais. C'est... Je dirais le sport. D'abord, et puis donc décliné en équitation, danse. J'ai fait aussi quand j'étais des jeunes filles, de la natation en compétition. J'ai fait pas mal de compétitions, oui, quand j'étais... en athlétisme aussi. Mais voilà, il y a ce goût-là qui est resté. Et puis sinon, la lecture. Oui. Et j'adore apprendre des choses nouvelles.
Ah.
Voilà. Oui, je suis très curieuse
Ben justement, comme vous parlez des livres, c'est vraiment la question que j'adore le plus dans le podcast. C'est quand je demande à mes invités, est-ce que vous avez des livres à recommander à nos auditeurs?
Ah oui. Alors,
Et là, je prends mon stylo.
Ah, la bibliographie de Cheikh Anta Diop.
Wow, ok.
Je trouve juste incroyable qu'au Sénégal, Cheikh Anta ne soit pas enseigné à l'école et à l'université. Lui donner le nom d'université, bon, c'est très gentil, c'est bien, c'est je pense qu'il aurait préféré qu'on diffuse
ses œuvres.
Ses œuvres. Et son enseignement, parce qu'il est tellement fondateur. Ce que Cheikh Anta m'a apporté en construction personnelle et en renforcement de messages que j'ai reçus de personnes importantes dans ma vie, dans ma famille. Hein. Je pense à mes parents, je pense à mon grand-père maternel, qui était vraiment aussi un sage. Et la lecture de Cheikh Anta m'a ancré dans ces valeurs-là. On a son agriculture, l'unité culturelle de l'Afrique noire, ça, je pense que c'est un must, quoi. Ouais. Et puis, un livre que j'ai découvert et que je recommande partout autour de moi. Malheureusement, il est encore en anglais. C'est A Fistful of Shells, une poignée de coquillages. Fistful of Shells. L'auteur, Toby Green, est un historien anglais qui a écrit l'histoire de la côte ouest africaine du début du commerce triangulaire, l'esclavage, jusqu'au moment de la révolution industrielle en Europe. Et ce livre m'a fait pleurer tellement, j'ai été émue parce qu'il m'a permis de comprendre l'origine de certaines de nos pratiques culturelles qui ont survécu jusqu'à présent. Ah. Et c'est vraiment, c'est-à-dire chaque fois le moment où waouh, aha, voilà pourquoi on fait voilà. Il explique très clairement la notion de détérioration des termes de l'échange. Comment l'Afrique est passée du stade de première puissance mondiale à l'état où nous sommes aujourd'hui, mais qui est parfaitement réversible. Hein. C'est une et le hasard a fait que j'ai pu échanger avec l'auteur.
L'auteur?
Parce que j'étais tellement passionnée de ce livre, j'en parlais. Et je suis tombée sur un Anglais qui me dit, mais Toby est mon copain, je vais vous mettre en relation. Et j'ai écrit à Toby en lui disant, mais il faut absolument que tu fasses traduire ton livre en français, parce que c'est notre histoire. Mmh. Et ce qu'il explique, c'est que on dit qu'il n'y a pas beaucoup d'archives en Afrique. Mais il dit que ce n'est pas pour ça que ces archives n'existent pas. Elles sont juste éparpillées à travers le monde. Mais elles sont extrêmement abondantes. Et donc, son ouvrage est bien documenté, vraiment bien référencé, et d'une richesse. C'est-à-dire, on ne peut pas sortir de cette lecture sans avoir un regard complètement différent sur l'Afrique. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Ce sont des pêcheurs guinéens qui lui ont montré le chemin pour aller en Amérique. Parce que les Africains et tous les Noirs qui sont en Amérique ne sont pas des descendants d'esclaves.
Ok.
Les habitants, enfin les Africains de l'Ouest allaient régulièrement. C'est un courant marin.
Ok.
Oui, et ça a été ça a été prouvé par la suite, mais c'est en tout cas voilà un livre extrêmement riche.
On sent la puissance quand même.
Ah oui, bon, et encore une fois, c'est un Britannique quoi,
ouais.
Qui a fait un ouvrage. On ne voit pas On ne va pas l'accuser de parti pris,
Bien sûr.
mais vraiment, voilà.
Magnifique.
Et puis un livre que j'ai, enfin dans la famille, que nous avons imposé à tous nos enfants, mes sœurs et moi, c'est Les poupées mandingues de Sundia Takei.
Ah.
Voilà, donc c'est juste... Bon, puis après, à part ça, je lis énormément de documentaires. Mais je veux dire, en termes de lecture fondamentale, surtout pour nos jeunes.
Oui.
Voilà.
Alors, l'objectif de ce podcast est aussi de susciter des vocations. J'en parle beaucoup chez les garçons comme chez les filles. et à travers les interviews de personnalités comme la vôtre, aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une faible représentativité des jeunes femmes dans des disciplines scientifiques et plus tard, moins aussi de femmes dans des conseils d'administration. On le voit, hein. Même si ça change de plus en plus. Et c'est quelque chose qu'on souhaite et qu'on encourage. Il y a quelque temps, j'ai écouté un podcast que j'ai beaucoup aimé, d'une journaliste française, Léa Salamé, dans Femmes puissantes, où elle a invité Christine Lagarde, qui est actuelle directrice de la BCE, Banque Centrale Européenne, qui proposait l'instauration de quotas dans les conseils d'administration. Et autre solution aussi, c'est de développer des effectifs de jeunes filles dans les STEMs, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Et partagez-vous cette analyse. Et selon vous, comment devrait-on procéder pour susciter plus d'intérêt chez les jeunes filles, surtout dans des disciplines d'excellence?
Bon, d'abord, je partage tout à fait cette analyse. Et il n'y a pas meilleur moyen pour briser les ailes de quelqu'un que de lui dire tu ne sais pas voler ou tu n'arriveras jamais à voler. Je ne sais pas d'où vient cette idée que les filles sont nulles en maths ou ne peuvent pas réussir en maths, alors que tous les jours on voit la preuve du contraire. Simplement, ça n'est pas encouragé et c'est dommage. Et là, je vous ai dit, moi, je voulais faire l'école polytechnique de Thiès.
Ah, de Thiès,
non, moi,
pardon.
C'était Thiès. J'avais
Thiès,
pas...
Oui. D'accord.
La France a été après par défaut. Je n'avais pas de... Mais évidemment qu'il faut que les filles soient plus présentes dans les filières scientifiques et plus tard également... dans des métiers comme les fintech. On peut apprendre le code à des enfants, garçons ou filles, c'est juste un langage. Beaucoup de normes sociales nous tirent vers le bas, en fait. Nous constituons la moitié de l'humanité. C'est dommage qu'on ne permette pas à cette moitié d'exprimer tout son talent et tout son potentiel, simplement parce que, on va dire les choses, hein, le monde est dominé maintenant par le patriarcat. Ce que j'ai... pour l'avoir vécu, je peux dire que j'ai grandi, moi, dans une société matriarcale, qui est la société Lébou.
Oui.
Et j'en vois encore les avantages. Une société matriarcale, elle n'est pas... elle ne repose pas sur les rapports de domination, mais sur l'équilibre des droits et des privilèges. Et plus on est faible, plus on a de privilèges. Ce sont dans les sociétés matriarcales que l'enfant est roi et que les vieilles personnes sont respectées, adulées, et que les étrangers sont comme gan. Olof gan, c'est l'étranger et c'est l'invité. Et l'invité a des privilèges exorbitants.
C'est vrai.
Ce sont ces sociétés-là qui sécrètent ce genre de valeurs. Donc, je pense que nous aurions tout intérêt à changer le narratif. Moi, mon narratif, quand j'étais enfant et que je grandissais, c'était si le bon Dieu avait mis sur la tête des hommes le poids qu'il a portée sur celle des femmes, ça en serait fini très vite de la race humaine, parce qu'au premier accouchement, ce serait terminé. On attend tellement, enfin, et là je parle de la culture dans laquelle j'ai grandi, qui est très stoïciste. Quand on est une femme, on a ce devoir de résilience, de dignité dans l'adversité. Et ça donne des comportements différents à l'âge adulte. Et c'est la différence entre le privilège et puis l'état de minorité. Je pense que plusieurs études l'ont prouvé. La présence de femmes dans des instances de décision a un rôle positif sur la communauté qui est concernée, qu'il s'agisse d'une société, qu'il s'agisse d'un village. Je vous ai dit tout à l'heure, parlant d'un conseil d'administration, que la diversité était une richesse. Là, c'est la même chose. Sociétés auraient intérêt à donner plus de place aux femmes. Et je trouve que là-dessus, on a plutôt régressé. Et puis changer l'image que l'on a sur les femmes. Nous ne sommes pas le sexe faible.
Et d'ailleurs, sur cette même lancée, si vous avez un dernier message à lancer aux jeunes filles, ce serait quoi ? Qui vous écoute ?
Ouh, c'est rêver grand et ne vous laissez pas distraire par tout message qui aurait tendance à vous tirer en arrière. Ne vous regardez jamais par le petit bout de la lorgnette. Voilà, tant qu'à faire, ayez des rêves ambitieux et allez les chercher. Ceux qui réussissent leur vie, qui ont une vie épanouie, ne sont pas forcément des gens à qui on a tout donné sur un plateau d'argent. Il faut aller chercher son bonheur.
Magnifique, message passé. Le mot de la fin, Madame C.
On est en début d'année. C'est vraiment une belle, douce et heureuse année que je souhaite pleine de paix, de santé, d'amour pour tout le monde.
Merci beaucoup. Je profite de la fin de ce podcast pour remercier Madame Evelyne Diou, qui m'a beaucoup parlé de vous, qui m'a dit qu'il faut que vous invitiez Madame Diabar Kamarissi. Tu vas voir, c'est une excellente invitée, etc. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez un petit mot.
Je remercie Evelyne aussi, qui est donc la directrice exécutive de WIC Capital et qui est une femme remarquable. Une excellente professionnelle et une grande dame.
Merci beaucoup, Madame C. Merci pour votre disponibilité.
Merci.